Bonjour et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission santé. Pendant une heure, nous allons vous informer et partager des conseils pour votre bien-être. Aujourd'hui, le dossier du jour est consacré à l'odorat. Est-il normal que certains aient un meilleur nez que d'autres? Peut-on éduquer son odorat ou au contraire le perdre définitivement? Les odeurs de notre enfance, pourquoi nous émeuvent-elles autant? Nous verrons tout cela avec notre invité, le docteur Patrick Folcon, ORL à l'hôpital Georges Pompidou à Paris. Le docteur Damien Mascret, médecin et journaliste au Figaro, est comme tous les jours à mes côtés. En studio. Bonjour Damien.
Bonjour Anne, bonjour à tous.
Vous nous parlerez sexologie et également conseils pratiques pour l'été. Quel est le programme?
Alors côté sexo, nous balayerons en fin d'émission les plus gros mythes de la sexualité masculine. Et dans les accidents de l'été, nous allons parler des risques de noyade.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h. Soyez les bienvenus dans votre émission santé Sans Rendez-vous.
Anne Le Gall vous reçoit Sans Rendez-vous sur Europe 1.
Et pour démarrer, on commence donc par évoquer ces problèmes d'été, ces problèmes médicaux qui surviennent un peu n'importe quand, parfois très graves, et on est parfois désarmé face à ces accidents. On parle aujourd'hui d'un risque grave, le risque de noyade.
Ben oui, parce que pour beaucoup de personnes, l'été, c'est les baignades. Malheureusement, baignade, ça rime aussi avec noyade. Et chaque année, on déplore chaque jour en France au moins 3 décès. Oui, 3 décès par noyade accidentelle en période estivale. Santé publique France avait calculé dans sa dernière enquête en 2018 qu'une noyade sur 4 se terminait par un décès.
Et cela alors que les sécurités autour des piscines ont été renforcées ces dernières années?
Bah oui, alors bon, c'est vrai que près d'une fois sur deux, les accidents se passent à la mer, ça c'est sûr. Mais ceci dit, les piscines représentent tout de même 31% des noyades accidentelles, notamment les piscines privées, familiales, qui elles seules comptent pour 20% des accidents. Alors dans les 3/4 des cas, c'est avec des enfants de moins de 6 ans. Hein, c'est d'ailleurs dans cette tranche d'âge qu'on trouve le plus de décès de victimes par noyade.
C'est la vigilance des parents.
Bah, vigilance, qui baisse. Vérifier les système de sécurité. Parfois, on croit que le système de sécurité autour de la piscine est suffisant et les enfants sont ingénieux. Ou alors, on a été inattentif et puis voilà ce qui arrive. Ceci dit, ça se produit dans toutes les classes d'âge. Il n'y a pas que les plus petits qui sont concernés. D'ailleurs, les décès, eux, touchent plus facilement les tranches d'âge plus importantes, notamment les 65 ans et plus, qui sont juste devant les 45-64 ans. Donc, vous voyez, il n'y a pas que les enfants qui doivent faire attention.
Alors, quels sont les bons réflexes pour éviter ça?
Alors, d'abord, il faut apprendre à nager le plus tôt possible.
C'est la base.
Voire réapprendre, hein, parce que là aussi, les plus de 65 ans, on s'est aperçu qu'il y a une personne sur trois qui ne sait pas nager chez les plus de 65 ans aujourd'hui. Hein, donc, ce qui peut expliquer en partie les chiffres inquiétants de mortalité. Alors bien sûr, il y a des zones dangereuses de baignade, il ne faut pas y aller. Mais pour ceux qui ont appris ou qui ont l'habitude de nager en piscine, c'est vrai que les vagues, ou alors si on découvre par exemple l'Atlantique avec ses courants alors qu'on a toujours été en Méditerranée, ça peut être une mauvaise surprise.
Il faut se méfier des courants, regarder les horaires de marée également.
Voilà, se renseigner, pas faire n'importe quoi. C'est dangereux, ne pas surestimer ses forces. Hein. En plus, on a été confinés, on a peut-être fait moins d'activités que d'habitude. Puis éviter l'eau les jours où on se sent fatigué, faible. Bien sûr, éviter de boire de l'alcool avant d'aller à l'eau. Là, je pense en particulier aux jeunes, hein, les soirs, le bain de minuit, si on est bien alcoolisé.
Alors, il faut l'éviter,
mais surtout, pensez à ses amis. Si vous n'avez pas trop bu, c'est à vous aussi de protéger vos amis.
Et puis, évidemment, les petits-enfants, il faut les surveiller de très, très près.
Bah oui, ça aussi, c'est une règle d'or. Hein.
On ne les équipe pas éventuellement.
Équiper avec des brassières ou des bouées, etc. Et puis, ne pas les quitter des yeux hein, quand ils se baignent ou jouent au bord de l'eau. Même le simple fait qu'ils soient au bord de l'eau, il faut être prudent. Donc, surveillance, c'est un adulte. Ça, c'est pas un grand frère ou une grande sœur. C'est un adulte qui ne regarde pas son téléphone, son smartphone, évidemment. Même la discussion, ça peut distraire l'attention et ça peut aller très vite. Donc, il faut être très prudent quand les enfants sont au bord de l'eau ou dans l'eau.
Et quand ils ne savent pas nager, on dit qu'il faut être à un bras de distance d'eux quand on est dans l'eau avec eux.
Bah voilà, il faut être avec eux, c'est l'idéal de toute façon.
En cas de noyade, si ça arrive, qu'est-ce qu'on peut faire en attendant les secours?
Alors, la priorité, c'est la respiration. Si la personne est en arrêt cardio-respiratoire, on va commencer le protocole de réanimation classique, hein, massage cardiaque bouche à bouche. Si la respiration reprend, mais que la victime est toujours inconsciente, on va la mettre en position latérale de sécurité. Bon, c'est un peu difficile à expliquer, mais regardez des tutos. C'est important de connaître la position latérale de sécurité.
Donc ça peut sauver
une vie.
Oui.
On met les gens sur le côté. On déshabille la personne, on la sèche. On n'oublie pas ensuite de mettre une couverture pour éviter l'hypothermie quand même. Et puis, si la victime est consciente, c'est un peu le même protocole. Quand la victime est consciente, simplement, on va la mettre plutôt en position semi-assise. Très important aussi, ne jamais nager seul parce que tout le monde peut faire un malaise dans l'eau.
Alors, on a une question de Sébastien au sujet des noyades.
Est-ce que c'est vrai qu'il faut vraiment se mouiller la nuque avant d'aller dans l'eau?
Alors, la nuque ou le visage hein, aussi. Plus généralement, le reste du corps, il faut le mouiller progressivement. L'essentiel pour éviter l'hydrocution, c'est-à-dire le choc thermique, parce que votre corps a peut-être chauffé pendant un moment au soleil. Au moment où vous plongez dans l'eau froide, c'est trop brutal. Votre système cardiovasculaire a du mal à s'adapter. Résultat, le cerveau peut être privé d'oxygène, ce qui peut déclencher une syncope. Et là, vous vous noyez, même sans vous en apercevoir. Donc, évitez ça.
Donc oui, Sébastien, c'est vrai. Si vous êtes au chaud et que l'eau est froide, il faut y aller doucement pour éviter l'hydrocution. Merci beaucoup, docteur Damien Mascret.
Europe 1.
À suivre dans cette émission, le dossier du jour consacré à notre nez et à notre odorat. Ce sens nous permet de profiter du parfum des fleurs, d'apprécier ce qu'on mange. C'est aussi un outil très précieux pour la santé. On va en parler avec notre invité. À tout de suite.
Europe 1, sans rendez-vous. Anne Le Gall.
Vous écoutez Sans Rendez-vous, nous sommes ensemble jusqu'à 16h. À mes côtés dans ce studio, le docteur Damien Mascret, médecin et journaliste au Figaro. Et notre invité du jour avec qui nous allons parler de l'un de nos cinq sens, ce sens qui nous permet d'être ému par un parfum. Il peut nous mettre l'eau à la bouche quand il y a un gâteau dans le four ou des grillades sur le barbecue. C'est aussi un bon moyen de nous plonger dans nos souvenirs et c'est également un précieux outil pour notre santé. Nous allons parler de l'odorat. Bonjour Patrick Folcon.
Bonjour, merci de m'avoir invité.
Merci beaucoup d'être avec nous dans ce studio. Vous êtes médecin ORL, responsable de l'unité troubles de l'odorat à l'hôpital européen Georges Pompidou.
Exact.
On va détailler les super pouvoirs de l'odorat avec vous. Mais pour commencer, quelques repères et on va revenir sur l'actualité. Avec le coronavirus, on a beaucoup entendu parler de l'anosmie, la perte d'odorat. De façon générale, les troubles de l'odorat, ça concerne quelle partie de la population ? C'est fréquent ?
Alors, les troubles de l'odorat sont finalement très fréquents dans la population puisque certaines études ont montré que près de 5 à 10% de la population était touchée par ces troubles de l'odorat. Ce n'est pas évidemment uniquement des pertes totales, mais ça peut être des pertes partielles. Et ça englobe aussi les pertes dues au vieillissement de l'odorat parce que vous savez, comme tous les sens, l'odorat diminue progressivement à partir de 55-60 ans. Donc, entre 3 et 6 millions en France de personnes sont susceptibles de présenter des troubles de l'odorat.
Et vous avez donc des patients de tous les âges dans votre service à l'hôpital Georges
Pompidou ? Alors, il y a des patients de tous les âges qui peuvent être touchés. C'est des patients jeunes, c'est des patients plutôt vers la quarantaine ou même des personnes âgées qui présentent des troubles de l'odorat et aussi des troubles de l'alimentation, ce qui comporte des problèmes à cet âge-là.
Damien Mascret.
Oui, parce qu'effectivement, souvent on dit que les personnes âgées n'ont plus d'appétit. Et parfois, quand on creuse un peu, on découvre qu'en fait, ils ont perdu la performance de l'odorat. Quel est le lien qu'on établit justement entre l'odorat et le goût ?
Alors, justement, c'est important d'aborder ce problème parce que souvent, on pense que le goût dépend des papilles qui sont sur la langue. Mais en fait, les saveurs alimentaires dépendent de l'odorat. Lorsque vous mettez un aliment dans votre bouche, les molécules odorantes vont passer, remonter dans le nez et vont stimuler le neuroépithélium olfactif. Donc toutes les saveurs alimentaires dépendent du système olfactif et c'est uniquement le sucré, le salé, l'amer et l'acide qui dépendent des papilles gustatives.
Et c'est pour ça que quand on se bouche le nez, effectivement,
voilà, quand
on ne ressent plus rien.
Aliment, alors c'est que partiel parce que ça passe derrière le nez. Donc finalement, vous ne sentez pas l'aliment. Mais vous allez quand même ressentir la saveur de cet aliment, la flaveur, d'accord ?
D'accord.
Donc, les personnes qui perdent l'odorat perdent malheureusement aussi les saveurs, la perception des saveurs alimentaires. Et vous avez l'impression de manger que du plâtre. Mm-hmm. Et c'est vrai que pour les personnes âgées qui sont déjà un peu dénutries, c'est un gros problème parce que ça accentue et les problèmes de dénutrition et les problèmes aussi liés de dépression qui peuvent être liés à cette perte de l'odorat.
Alors, donc on le perd avec l'âge, cet odorat. Est-ce qu'il arrive dès la naissance ?
L'odorat, c'est un des sens qui se forme le plus rapidement lors de la vie embryonnaire. Globalement, à partir de la 8e semaine, on commence déjà à voir des cellules
déjà.
In utero. Certaines études ont montré que le bébé in utero pouvait avoir quelques réactions lorsque notamment la maman prend des produits sucrés, parce que vous savez que les enfants adorent les aliments sucrés et l'odeur sucrée, qui bougeait un petit peu plus que la normale parce que les molécules odorantes passent dans le sang et ensuite dans le liquide amniotique. Et le système olfactif, en fait, est fonctionnel dans l'eau, dans le liquide amniotique.
Damien Mascret.
Est-ce que ça veut dire qu'on peut... alors, éduquer, attention, on ne va pas éduquer les enfants in utero, évidemment, mais les habituer à des odeurs sans le savoir, finalement, en mangeant différemment quand on est enceinte ?
Alors, peut-être, ça, il n'y a pas d'études là-dessus, mais en revanche, après, rapidement, effectivement, on peut apprendre aux enfants à diversifier leur alimentation pour qu'ils s'habituent de plus en plus à être en contact avec des saveurs, avec des odeurs différentes. Et ça va effectivement forger progressivement leur système olfactif et donner ensuite de fins gastronomes.
Et alors, une odeur, c'est quoi précisément? C'est un ensemble de molécules. Et comment le nez... Alors, est-ce que c'est que le nez qui perçoit l'odeur, d'ailleurs? Expliquez-nous.
Alors, l'odeur, en fait, c'est des molécules chimiques qui ont un poids moléculaire très particulier. Si elles sont trop lourdes, elles vont tomber sur le sol. Donc là, vous allez être obligé de renifler le sol. Donc, ce n'est pas très pratique. Si elles sont trop légères, elles vont s'envoler. Donc, elles flottent un peu dans l'air. Elles sont un peu vaporisées. Et en fait, lorsque vous inspirez, elles vont rentrer dans votre nez et venir en fait s'impacter dans le mucus, vous savez, qui est sécrété au niveau du nez. Quand vous mouchez, c'est du mucus.
D'accord.
Et en fait, c'est le mucus qui va apporter progressivement ces molécules odorantes à l'épithélium qui est situé au sommet des fosses nasales.
D'accord.
Voilà. Donc, au sommet, il y a une petite zone avec quelques centimètres carrés de neurones, de neurones olfactifs. Et c'est à ce niveau-là que les molécules vont activer les récepteurs de l'odorat.
Donc finalement, on est dans la chimie, on est dans l'odeur et dans l'air, mais ensuite elle est dans le liquide et elle est transformée chimiquement en signal électrique.
C'est de la chimie, ça vole, ensuite c'est solubilisé dans le mucus et ensuite ça entraîne des influx nerveux. Donc c'est vraiment de la chimie.
Et le nez humain peut détecter combien d'odeurs ?
Alors, il y a quelques décennies, on pensait que le nez humain finalement n'était pas très très bon, notamment par rapport aux autres mammifères, aux chiens, etc. Et on s'est aperçu que finalement, le nez humain entraîné pouvait détecter, alors peut-être pas reconnaître parce qu'il faut quand même mémoriser des milliers d'odeurs, c'est quand même très compliqué, mais détecter des dizaines de milliers d'odeurs.
Des dizaines de milliers.
Des dizaines de milliers d'odeurs parce qu'en fait, vous avez 400 récepteurs différents et chaque odeur, chaque molécule peut stimuler soit un récepteur ou plusieurs récepteurs. C'est un peu comme si vous jouiez sur un piano comportant 400 touches. Donc, vous imaginez la multitude d'harmonies, d'accords possibles. Donc, c'est incroyable.
Damien Mascret.
Oui, en fait, ce qui est un peu trompeur, c'est qu'on n'a pas les mots à mettre là-dessus. C'est un petit peu comme pour les goûts.
Exactement. C'est-à-dire, vous allez détecter l'odeur, mais après...
La décrire, c'est compliqué.
C'est très compliqué. C'est très compliqué s'il y en a tellement d'emmagasinés que la ressortir spontanément, même quand on n'a pas de trouble de l'odorat, et même quand c'est une odeur simple, si je vous fais choisir une odeur parmi 50, ce n'est pas facile.
Alors, on a des catégories pour le toucher, le doux, le rugueux, pour les couleurs. On a des catégories aussi pour le goût, l'acide, l'amer. Est-ce qu'on a des catégories pour les odeurs?
Oui, il y a quelques familles d'odeurs.
Par exemple,
vous avez les odeurs florales.
D'accord,
vous avez
c'est celle des parfums,
des parfums, les odeurs plus lourdes comme les muscles, les choses comme ça, les odeurs de sous-bois, de champignons. Il y a toute une 7 ou 8 odeurs comme ça de familles d'odeurs différentes.
D'accord.
Qui sont décrites.
Et est-ce qu'on est si mauvais que ça par rapport aux animaux? Point de vue odorat.
Alors, ça dépend quel animal, mais globalement, si vous prenez un chien, il a probablement 1000 ou 10 000 fois vos capacités olfactives, puisque nous, on a à peu près 10 millions de neurones, et un berger allemand, il en a 100 millions. Donc déjà, c'est fois 10.
D'accord.
Et donc, ça n'a rien à voir. C'est vraiment, ils ont une capacité de détection largement supérieure à nous, même si la nôtre est quand même finalement pas si mauvaise.
Alors, chez les animaux, la taille du nez peut impacter sur la qualité de l'odorat. Est-ce que c'est pareil chez l'humain?
Alors, effectivement, on a tous remarqué le museau du chien, où effectivement, au lieu d'avoir 2 cm², il y a 10 cm² d'épithélium neuronal olfactif. Mais dans l'espèce humaine, globalement, l'épithélium est situé en fait derrière le nez. Vous voyez, ce n'est pas au niveau de la pyramide nasale, c'est un peu plus en profondeur. Donc la taille du nez n'influe rien à voir dans les phénomènes de détection et de spécificité de certaines personnes. Alors, ce qu'il faut rajouter, c'est que l'odorat, autant la vue, l'audition, on est tous à peu près dans la même moyenne, l'odorat, il y a une grande différence interindividuelle. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui peuvent détecter une odeur avec une concentration 1000 fois inférieure à laquelle vous pouvez la détecter.
Ça s'explique comment? C'est génétique?
C'est génétique. Probablement le nombre de récepteurs, le nombre de connexions, c'est génétique.
Alors, on dit aussi d'ailleurs que génétiquement, certains ne sont pas équipés pour percevoir certaines odeurs dans l'urine, notamment d'élimination d'aliments, par exemple. C'est vrai?
Alors, il y a effectivement des gens, je ne sais pas pour l'urine et le reste, mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont des véritables trous dans leur fréquence, mais dans la gamme des odeurs. Ils sentent très très bien, sauf par exemple, ils ne détectent pas l'odeur de vanille. parce que les neurones ne se sont pas développés dans, dans cette gamme d'odeurs.
Et j'avais une autre question par rapport à ça, c'est est-ce qu'il n'y a pas une habitude, parce qu'on dit toujours que les gens qui se parfument, au bout d'un moment, ne sentent plus ou quasiment, ou beaucoup moins l'odeur du parfum.
Ça, c'est vrai, même dans la journée, on ne se rend pas compte.
Comment on explique qu'il y a une extinction du signal?
Alors, c'est assez compliqué. Déjà, il y a peut-être un phénomène de saturation et il y a un phénomène de compensation un peu, en fait, du cerveau. Normalement, initialement, l'odorat, c'est un sens qui vous alerte des dangers. Donc, il doit être constamment, c'est l'homme de Cro-Magnon de Néandertal, c'était le premier sens qui l'alertait d'un danger. Une bête sauvage, il ne la voyait pas, il ne l'entendait pas, il la sentait. Et à l'époque, ils avaient des capacités beaucoup plus importantes que nous. En fait, avec l'évolution de l'homme, on a perdu énormément de récepteurs. Ils avaient à peu près 1000 récepteurs, alors qu'on en a plus que 400. Donc, ils sentaient nettement mieux que nous.
Effectivement.
Donc, en fait, votre odorat a quand même... D'ailleurs, ça sert lors de fuites. On va en parler. Parce que les gens qui ont des pertes de l'odorat, malheureusement, ont énormément d'accidents domestiques. Donc, on en parlera peut-être plus tard. Mais en tout cas,
on n'est pas égaux devant l'odorat.
On n'est pas du tout.
On continue de parler de la complexité et de l'importance de l'odorat pour notre santé.
Europe 1.
Nous allons notamment détailler les super pouvoirs de notre nez, des pouvoirs pour séduire, pour nous émouvoir ou nous prévenir des dangers, on vient d'en parler. On se retrouve dans un instant dans Sans Rendez-vous.
Sans Rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Anne Le Gall.
Sans Rendez-vous, c'est votre émission Santé, Bien-être sur Europe 1. Autour de la table aujourd'hui, le docteur Damien Mascret, médecin et journaliste au Figaro. Et notre invité, docteur Patrick Folcon, médecin ORL, responsable de l'unité troubles de l'odorat à l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris. L'odorat, docteur, est-ce que ça nous permet de ressentir les plaisirs de la vie? On l'a dit, mais alors il y a quand même quelque chose de très étonnant, c'est que on ne sent pas notre odeur. On ne sent pas l'odeur qu'il y a dans notre maison ou notre appartement. On ne sent pas forcément l'odeur corporelle qu'on a, nous. On sent celle des autres, mais pas la nôtre. Pourquoi ?
Parce que déjà, initialement, il y a un phénomène de saturation qui se fait assez rapidement. Quand vous rentrez dans un endroit, vous allez sentir de manière intense au début. Puis après, il y a un phénomène de régulation qui fait que les récepteurs étant un petit peu saturés, vous le sentirez moins. Et surtout, l'odorat est initialement fait pour détecter les dangers. Et du coup, il y a un phénomène de régulation qui fait que l'odorat devient plus vigilant et a tendance un petit peu à mettre, entre guillemets, au repos les odeurs qui sont dans la pièce de manière constante. Donc, de façon à sentir, par exemple, une petite fuite de gaz. Ou, c'est un sens qui est constamment en vigilance.
D'accord. Donc, quand il a détecté l'odeur environnante, en fait, et celle de notre parfum éventuellement le matin, au bout d'un moment, il fait un petit reset.
Voilà, il fait un petit reset. Si jamais il y a un accident, je ne sais pas moi, une fuite de gaz ou un départ d'incendie, que vous puissiez le sentir.
Damien Mascret.
Oui, on a d'ailleurs l'équivalent avec l'audition. Vous connaissez peut-être le syndrome du clocher du village.
Ah non, je ne connais pas.
Et ben voilà, quand on arrive dans un village et qu'il y a un clocher qui sonne la nuit, ça va vous réveiller la première fois. La première nuit, ça vous réveille.
Exact.
Parce que votre cerveau, l'audition ce coup-ci, a entendu un signal d'alerte. Par contre, la deuxième nuit, votre cerveau a très bien compris que ce n'était absolument pas dangereux, sans danger. Il entend évidemment, l'oreille entend la nuit.
Mais vous avez raison.
Mais le met de côté et ne va pas vous réveiller. Donc, c'est le même principe. Il faut que le sens reste en éveil pour autre chose que simplement quelque chose qui n'a pas de danger.
Le syndrome clocher du village. Vous m'aviez appris quelque chose.
Alors, reviendrai.
L'odorat, oui, j'y compte bien. L'odorat, donc, ça agit aussi énormément, beaucoup sur les émotions. Et puis, en plus, on vit dans un monde parfumé. Il y a des odeurs partout, tout le temps. Les personnes qui perdent l'odorat sont gênées au quotidien?
Alors, c'est vrai que depuis une vingtaine d'années, autant on vivait essentiellement dans une société audiovisuelle avant l'avènement des parfums, mais depuis quelques années, dans tous les lieux, vous rentrez dans un magasin, vous rentrez dans une banque, dans votre voiture, il y a un parfum qui flotte un peu dans l'atmosphère. Et alors, en même temps, ça peut gêner certaines personnes parce qu'une odeur n'est pas agréable pour tout le monde.
Oui.
Donc, voyez. Mais globalement, les gens qui perdent l'olfaction, l'odorat, sont extrêmement gênés parce qu'ils perdent une grande part de la sociabilité, de leur relation avec les autres au niveau des odeurs, au niveau de leur comportement. On en reparlera de la séduction, de leurs émotions. Ils peuvent aussi perdre un peu la capacité qu'a l'odorat d'entraîner des réminiscences de la mémoire, des pans, comme c'est un peu l'histoire des Madeleines de Proust. Donc en fait, ça, c'est pas seulement une perte des saveurs, et c'est une perte émotionnelle, et c'est aussi de la mémoire emmagasinée qui ne peut pas revenir de manière volontaire.
Oui, alors il y a un phénomène effectivement un peu étrange parfois avec la mémoire olfactive, puisqu'on en parle, c'est qu'effectivement, elle revient très vite quand on ressent une odeur qu'on a sentie. Si vous n'avez pas été en Corse depuis 20 ans et que voilà. vous y allez cet été, vous reconnaissez tout de suite l'odeur. Oui. Mais à l'inverse, on dit aussi qu'il est quand même très difficile d'imaginer une odeur. Comment ça s'explique?
Alors ça, j'avoue que j'y réfléchis, mais je n'ai pas d'explication.
C'est un mystère.
Ça marche dans un sens et de manière extraordinaire parce qu'une petite goutte de parfum peut vous faire revenir en mémoire des pans entiers de votre vie.
C'est incroyable. Quand on
une micro-goutte, voyez.
Quand on ressent le parfum qu'on a porté il y a plusieurs années, ça nous transporte.
Même sur des choses que vous avez complètement oubliées et que vous êtes incapable de faire revenir par une mémoire volontaire. Mm-hmm. Donc ça, c'est extraordinaire. Mais ça ne marche pas dans l'autre sens. C'est vrai qu'on n'arrive pas à imaginer ce que peut être une odeur. Et c'est pour ça, on en parlera tout à l'heure, pour les gens qui ont perdu l'odorat. La rééducation olfactive permet de se remémorer un peu toutes ces odeurs et de les remettre en mémoire.
On vit quand même dans une société aseptisée où on essaie de gommer les mauvaises odeurs. Il y a des ambiances d'intérieur, il y a des parfums un petit peu partout. Vous en pensez quoi de ces parfums artificiels qu'on rajoute? C'est mauvais?
Alors, non, je ne pense pas. Je pense qu'ils ont été testés auparavant et que ce n'est pas particulièrement mauvais pour la santé. Mais comme je vous le disais, une très bonne odeur pour une personne peut être très désagréable pour une autre personne. Mmh. Et ce n'est pas évident, même si l'odeur a été testée sur un panel de personnes, qu'elle plaise à tout le monde. Donc, dans un magasin, ça peut être gênant parce que ce magasin peut perdre éventuellement des clients. Il n'y a pas d'odeur universelle, entre guillemets.
Damien Mascret.
Oui, alors c'est amusant parce que nous, en sexologie, effectivement, on s'intéresse beaucoup à la compatibilité des odeurs et on s'aperçoit qu'il peut y avoir aussi bien attirance, d'ailleurs, que répulsion, parfois même sans qu'on s'en rende compte. Mais la question qui se pose aussi, c'est comment on peut expliquer l'odeur corporelle qui peut être si différente d'un individu à l'autre? Est-ce que c'est génétique? Est-ce que c'est chimique? Comment on explique l'odeur? Pour la santé, déjà, peut-être.
Oui.
La santé peut influer sur l'odeur.
Ah oui, bien sûr, les maladies peuvent entraîner des modifications de vos odeurs corporelles. Mais après, je pense que c'est une histoire de génétique, au niveau du nombre de glandes sudoripares, de glandes sébacées, etc.
Et on dit d'ailleurs que quand on choisit son partenaire sexuel, on ne choisit pas n'importe qui, on choisit aussi en fonction de l'odeur de sa transpiration. C'est quelque chose d'inné.
On le choisit peut-être de manière effectivement inconsciente aussi.
Et alors tout
absolument.
À fait,
sans parler de phéromones, l'odorat peut effectivement entraîner un comportement de séduction ou sexuel en fonction des odeurs, et même parfois on n'en est même pas conscient. On est attiré, c'est une espèce, on parle d'alchimie, mais on ne comprend pas très bien et ça marche, c'est indispensable.
Les phéromones, ce sont des odeurs qu'on ne perçoit pas consciemment, c'est ça?
Alors, chez l'homme, les études ont montré que ça n'existait pas.
D'accord.
C'est surtout chez les mammifères, les reptiles, etc. Donc, il y a quand même des odeurs qui peuvent parvenir et de manière un petit peu inconsciente et qui déclenchent des réactions de séduction et dans le comportement sexuel chez l'homme.
Damien Mascret.
Oui, d'ailleurs, c'est aussi un conseil qu'on donne aux jeunes femmes et aux jeunes hommes de sentir leur partenaire. Alors évidemment, ils vont sentir, mais oui, il faut renifler son partenaire. Ben, si, il faut le renifler. mais surtout aux femmes, parce qu'on sait que la pilule, par exemple, la contraception orale peut modifier l'odorat. Et donc, se mettre avec quelqu'un en couple, comme disait ma grand-mère, sans savoir à l'avance si on aime bien son odeur. Alors, au moment où on ne prend pas la pilule, ça peut être une mauvaise découverte. Au moment où on arrête la pilule pour avoir un premier enfant, parce qu'on découvre une odeur un peu différente et parfois, c'est une mauvaise surprise. Ça ne nous convient pas, on ne sait pas trop pourquoi.
Alors, donc, il faut être clair. Donc, quand on prend la pilule, l'odeur qu'on perçoit est modifiée.
Voilà. Donc, arrêtez un petit peu la pilule, le temps de voir si l'odeur de votre compagnon vous plaît, ou votre, ça peut être une partenaire aussi, d'ailleurs. Et puis, si ça vous convient, reprenez quand même la pilule, en tout cas si vous êtes avec un garçon.
Merci docteur Madame Mascret. On va poursuivre cette discussion dans un instant avec le docteur Patrick Folcon. On rappelle que vous êtes médecin ORL, responsable de l'unité troubles de l'odorat à l'hôpital européen Georges Pompidou.
Anne Le Gall vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
Vous écoutez votre émission Santé, Bien-être. Nous sommes ensemble jusqu'à 16h et nous parlons aujourd'hui de l'importance de notre odorat avec le docteur Damien Mascret et notre invité du jour, Patrick Folcon, médecin ORL à l'hôpital européen Georges Pompidou. Alors, on l'a vu, hein, les troubles de l'odorat, c'est assez fréquent, 5 à 10% de la population.
Oui, 5 à 10% de la population.
Donc, ça fait 3 à 6 millions de Français.
En France, 3 à 6 millions de personnes touchées.
Voilà. Et alors, qu'est-ce qui peut causer des troubles de l'odorat, une baisse de l'odorat?
Alors, globalement, il y a 3 principales causes de baisse définitive ou partielle de l'odorat. La première cause sont toutes les inflammations chroniques du nez et des sinus, dont une maladie qu'on appelle la polypose nasosinusienne, qui sont des petits polypes qui vont se former dans les sinus.
Donc et des petites boules, des petits gonflements.
Comme des petits sacs qui se gonflent. Mm-hmm. D'ailleurs, on ne sait toujours pas pourquoi aujourd'hui, pourquoi certaines personnes développent ces polypes. Et en fait, les polypes vont progressivement se développer et venir boucher les fentes olfactives. Donc, vous allez avoir progressivement une perte de l'odorat sur plusieurs semaines ou plusieurs mois. Et à la fin, vous n'allez avoir plus du tout d'odorat. C'est-à-dire vous n'avez plus d'odorat et plus de saveur. Donc ça, c'est une des causes que l'on peut traiter. Hein, globalement, on peut traiter ces inflammations par un spray par corticoïde ou par de la cortisone par voie générale.
Anti-inflammatoire. Donc.
Anti-inflammatoire. Mmh. Opérer éventuellement ces gens en dernier recours, quand malheureusement les polypes sont trop gros et ne réagissent pas à la cortisone. Mais c'est une des causes que l'on peut traiter.
D'accord.
C'est à peu près 40% des pertes de l'odorat. Donc, vous voyez, c'est très, très important. Si vous ramenez ça à 3 à 6 millions de départ, c'est quand même important.
D'accord. Et le reste, donc, il y a les rhumes, les
donc,
virus.
Alors, le mécanisme, c'est un mécanisme d'obstruction. Mm-hmm. C'est-à-dire, c'est transmissionnel.
C'est mécanique.
La molécule odorante ne peut pas passer, c'est bouché, donc elle ne peut pas atteindre. Mais le neuroépithélium fonctionne parfaitement.
D'accord.
Au moins au début. Après, il s'éteint un peu, parce que, comme tous les sens, il faut stimuler les neurones.
D'accord. Hein.
Là, les deux et troisième causes sont un petit peu plus complexes à traiter. Et surtout, ça peut entraîner des pertes définitives de l'odorat. La deuxième cause principale, c'est justement la perte de l'odorat dans les suites d'une infection virale. On en parle énormément en ce moment.
On en a vu avec le coronavirus.
Avec le coronavirus, apparemment, en France, 60 à 70% des gens présenteraient une perte partielle ou totale de l'odorat. Ce qui n'avait pas été retrouvé en Chine, puisque c'était seulement 5% des patients. Mais on sait depuis très longtemps, moi j'en suis des centaines en consultation depuis 20 ans, en fait, vous attrapez un rhume, bon, comme tout le monde, vous avez le nez bouché, l'odorat diminue, et puis quand le rhume s'améliore, au bout de 10-15 jours, l'odorat revient.
C'est normal.
Ça, c'est le virus lambda normal. Dans un cas sur 400, vous, au bout de 10 ou 15 jours, l'odorat ne revient pas. Donc les gens attendent, se disent « ça va revenir ». Et finalement, viennent en consultation très tardivement, au bout de plusieurs mois. Et malheureusement, si l'épithélium, les neurones ont été détruits par ce virus, ça peut être le cas avec le Covid-19, il y a peu de récupération possible, environ 50%. Malheureusement,
donc, voilà. Donc, ce que vous conseillez, si jamais on perd l'odorat suite à un rhume, c'est quand même de consulter combien de temps ?
Bah, il faut venir assez rapidement pour voir exactement ce qu'il en est.
Parce un que mois après, deux
voilà,
mois après
non, rapidement,
c'est-à-dire
15 jours, 30, un mois maximum, pour voir si la perte est juste due à l'obstruction nasale, auquel cas le médecin va donner un traitement, ça va revenir, ou si il peut y avoir des atteintes voyez, de neuronales, des neurones, des cellules nerveuses, et notamment par l'apparition de transformation des odeurs. Donc ça, c'est un signe d'atteinte de l'épithélium olfactif. Les odeurs, en fait, persiste.
On ne sent pas
parfois
la même chose.
Voilà, l'odeur, c'est toujours la même odeur qui revient. Donc ça, dans ces cas-là, on peut craindre que le virus a attaqué les neurones.
Damien Mascret.
Est-ce que dans les suites d'un rhume ou d'un coronavirus, pourquoi pas, même celui qui circule actuellement, après 15 jours, 3 semaines, il faut déjà commencer soi-même à essayer de faire de la rééducation en sentant des odeurs fortes? Ou est-ce que non? De toute façon, quand on va consulter, on va vous faire une rééducation. Et ça consiste en quoi d'ailleurs, cette fameuse rééducation de l'odorat?
Alors, vous pouvez commencer une rééducation s'il persiste un peu d'odorat, parce que si vous êtes à zéro, c'est l'équivalent de rééduquer un bras amputé. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, ça.
Ouais, aucun effet.
Donc, s'il persiste même 20 ou 30% d'activité olfactive, oui, il faut commencer la rééducation rapidement. Alors, la rééducation, c'est très simple. Il suffit tous les jours d'essayer de reconnaître 4 à 5 odeurs. Ce n'est pas la peine de se lancer dans des exploits olfactifs. Ça sera trop compliqué et rapidement, les gens ne vont pas tenir la la durée. Donc, il faut essayer de reconnaître 4 ou 5 odeurs par jour.
On sent une banane, on se dit ça, c'est la banane.
Voilà, l'idéal,
la menthe,
c'est d'avoir un petit
citron.
Kit d'odeurs pour essayer d'avoir des odeurs différentes. Parce que si vous sentez toujours la banane tous les jours, ça va être un peu. Voilà.
Banane, mais, vanille, citron, menthe.
Voilà, globalement, il faut essayer d'avoir des petits flacons d'odeurs. Il y a un jeu pour enfants qui réunit quelques odeurs. Donc, s'entraîner sur 30 ou 35 odeurs et essayer de reconnaître 4 ou 5 odeurs par jour pendant 2-3 mois. Mmh. Et il y a une étude qui a montré qu'on pouvait récupérer comme ça une vingtaine de pourcents de l'odorat. Bon, ce n'est pas extraordinaire, mais ça permet quand même, c'est mieux que rien. Parce que même sans atteindre 100%, si vous avez au quotidien un odorat qui est à peu près à 50% par rapport à un odorat normal, ça vous permet de détecter quelques odeurs, quelques saveurs alimentaires. C'est déjà, ça vous change la vie.
Mmh. Au-delà des virus, il y a aussi certains traumatismes qui
voilà.
peuvent
Alors, la
créer
troisième
des troubles.
Cause, 30%, donc 30% virus, 30% c'est le traumatisme crânien. Alors, comment ça se passe? En fait, lorsque notamment les traumatismes situés à l'arrière de la tête, en fait, vous allez avoir un recul du cerveau et vous allez avoir un arrachement des petits filets olfactifs qui sont implantés en avant dans la base du crâne. Donc, si vous avez un étirement, vous mm-hmm. allez récupérer. Mais malheureusement, ces filets sont extrêmement fragiles et dans 70% des cas, vous n'avez pas de possibilité de récupération. Donc, le traumatisme crânien est particulièrement pourvoyeur de perte de l'odorat.
Damien Mascret ?
Oui, il y a une sorte de cisaillement qui se passe, effectivement, quand ces filets traversent l'os.
Voilà,
c'est ça, hein.
Il y a une espèce d'airbag au niveau du cerveau qui est le liquide qui entoure le cerveau, ce qui permet notamment lors de chocs que le cerveau ne soit pas trop ébranlé. Et malheureusement, les petits filets olfactifs, c'est un peu comme une encre de bateau. Si le bateau part en arrière, l'encre est arrachée. C'est pareil, c'est pour ça que c'est surtout les chocs postérieurs qui entraîne ces pertes de l'odorat.
Je crois que les troubles de l'odorat, ou en tout cas l'évolution de la façon dont on ressent les odeurs, ça peut être aussi un symptôme de certaines maladies.
Alors oui, parce que c'est pas la façon dont on ressent ces odeurs, c'est que certaines maladies modifient les odeurs corporelles. C'est connu, hein, Hippocrate l'avait décrit 400 ans avant Jésus-Christ. Donc, par exemple, quand vous avez un diabète, vos urines peuvent avoir une odeur différente, la sueur peut être différente, même certaines tumeurs dégagent des odeurs que l'homme a du mal à détecter. Mais il y a une étude qui avait.
Voilà,
certains chiens, notamment les bergers, peuvent détecter quand on les entraîne à détecter ce type d'odeur. Il y a une étude sur 150 tumeurs du sein, le chien a fait un sans faute, hein, il a détecté les 150 tumeurs.
Est-ce que la pollution peut nuire nos capacités olfactives?
Ça ne va pas entraîner directement une perte, mais c'est un cofacteur, comme le tabagisme d'ailleurs, puisque la plupart des gens qui fument, pour tous ceux qui fument, effectivement, ce qui est rassurant, c'est que dès que vous arrêtez de fumer, en quelques jours, ça vous retrouve un odorat normal. C'est pas souvent, les récupérations olfactives sont très longues parce que ça correspond à des repousses de neurones. C'est en mois, voire en années. Mmh. Après un traumatisme crânien, après une perte virale, c'est 18 à 24 mois pour la récupération, quand récupération il y a.
Quand c'est possible, oui.
Après avoir arrêté de fumer, en 2-3 semaines, vous avez tout récupéré. Donc ça, c'est quand même
un message positif.
C'est un message positif, exactement.
Merci beaucoup, Dr Patrick Folcon, d'être venu en studio nous apporter votre éclairage.
Europe 1.
Votre émission santé continue dans un instant avec des conseils pour booster votre mental pendant l'été et la chronique sexo de Damien Mascret. A tout de suite.
Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Anne Le Gall.
Votre émission santé sans rendez-vous, c'est tous les jours jusqu'à 16h et nous sommes toujours en compagnie du docteur Damien Mascret, médecin et journaliste au Figaro. Et tous les jours vers 15h40, nous parlons de notre mental, de nos habitudes personnelles pour améliorer le bien-être au quotidien. Tous les jours, un expert nous donne ses pistes, ses secrets pour prendre soin de nous. Aujourd'hui, c'est le docteur Stéphane Cascua qui est avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médecin du sport à Paris. Si on vous demande 3 idées pour nous motiver à faire du sport cet été, vous nous dites quoi ?
Alors déjà, ce n'est pas cet été.
C'est
après.
Pas que.
Oui, parce que le paramètre essentiel, il est à l'organisation, puisque l'efficacité du sport ne s'inscrit que dans la régularité et la continuité. Donc, pour être régulier, il y a des études neuropsychologiques qui mettent en exergue qu'il faut ritualiser. Il ne faut pas échapper. C'est-à-dire que si vous avez prévu de faire du vélo d'appartement après le café, vous montez sur votre vélo d'appartement.
Sans
si vous avez dîné avec des copains, que ça s'est terminé tard, vous montez sur votre vélo d'appartement et vous pédalez un peu.
D'accord.
Et puis, il faut s'accrocher. C'est-à-dire que ça va être un peu difficile 6 semaines. Au-delà de 6 semaines, on a une espèce de dépendance, de douce dépendance qui va s'installer et vous aurez plaisir à monter sur votre vélo d'appartement. Prenez rendez-vous avec vous, mettez de la musique, regardez la téloche, écoutez la radio.
D'accord.
Et vous allez y trouver des satisfactions, donc accrochez-vous.
Donc, premier conseil, on ritualise.
Deuxième, on s'accroche.
On s'accroche 6 semaines au moins, donc on peut démarrer cet été et on continue.
Et troisième conseil, pas trop dur. L'intensité santé est telle que les perceptions respiratoires correspondent à je peux parler, mais pas chanter. Je peux parler, c'est pas trop dur, mais pas chanter. Je suis passé de l'activité physique au sport.
Donc, on fait du vélo, du footing, on peut parler avec son voisin.
Mais on ne pourrait pas chanter. Et on en fait environ 30 minutes. 3 fois par semaine, ça représente 3% du temps éveillé. Ça veut dire que si on le met au-dessus de la pile, eh bien, on va y arriver.
Damien Mascret.
Oui, alors vous avez insisté, à juste titre, bien sûr, sur la notion de plaisir dans le sport. Alors parfois, d'ailleurs, le mot sport fait un petit peu peur à certains. Alors on dit activité physique pour les ménagers. Mais est-ce que, effectivement, l'étape la plus délicate n'est pas dans le choix du sport ou de l'activité qu'on va faire? Comment on fait pour choisir ce qu'on va faire?
Alors, l'un des critères, c'est vraiment, justement, d'y prendre du plaisir. Donc, c'est ce qu'on aime. En sachant qu'il y a des sports plus ou moins compliqués. Les sports d'équipe qui imposent des horaires, qui imposent des réunions de plusieurs individus. On se rend compte, nous, médecins du sport, que l'âge adulte venu, lorsqu'il y a des contraintes professionnelles, lorsqu'il y a des responsabilités familiales, on n'y arrive plus. Donc il faut acquérir de l'autonomie. Et les sports les plus autonomes, c'est vrai, c'est le renforcement musculaire, c'est le footing, c'est le vélo d'appartement, c'est le sport en salle. C'est moins ludique, mais sur la base de cette préparation pendant la semaine, on pourra faire des activités ludiques le week-end, du tennis, du foot avec les potes. On n'y serait pas parvenu sans ces 2 à 3 piqûres de rappel au cours de la semaine.
D'accord, donc on ritualise, on s'accroche 6 semaines, on fait 30 minutes, on peut parler, etc. À n'importe quel âge, c'est possible?
Ah oui, oui.
Même si on n'a pas fait de sport depuis 10 ans?
Oui, alors on le fait avec un bilan, mais toutes les études montrent qu'il y a une amélioration de la condition physique et de la santé lorsqu'on commence une activité physique.
Est-ce qu'il faut un petit check-up médical, une petite visite chez le médecin avant de s'y remettre au sport?
Oui, la visite médicale d'aptitude est importante parce que faire du sport, c'est dangereux pour le cœur parce que ça stimule le cœur. Alors qu'être sportif, ça apaise l'excitation du cœur et au contraire, c'est une protection. Donc il faut savoir si le cœur est fragile. Et pour cela, un examen simple permet d'avancer les choses.
Il va nous faire un électrocardiogramme?
Non,
non, même
l'examen
pas.
Le plus efficace, c'est l'interrogatoire. Parce que toutes les morts subites au sport, finalement 90 à 95% de ces drames sont précédés de signes fonctionnels que l'on n'avait pas recueillis. Allez, on y va. Ce sont les pertes de connaissance à l'effort, ce sont les malaises, ce sont les douleurs thoraciques, ce sont les palpitations ou les accès d'essoufflement récents.
Oui, donc effectivement, si on a tout ça,
faut aller voir
un médecin.
C'est où? Voilà. Et puis c'est vrai qu'il y a la fameuse épreuve d'effort chez l'homme de plus de 40 ans qui consiste à pédaler progressivement jusqu'au maximum de ses capacités sur un vélo immobile alors qu'un électrocardiogramme surveille le comportement et l'oxygénation du cœur.
Voilà, et si on a fait ce bilan-là, on est bon, on peut faire du sport.
Grosso modo, on est serein.
Damien Mascret.
Oui, parce qu'on rappelle souvent que parfois il y a des drames, il y a des accidents dans le sport. Alors c'est vrai, ça, pendant une activité physique, évidemment, on augmente son risque de faire par exemple un infarctus. On a calculé, mais c'est très différent chez un sédentaire et un sportif, on a calculé que chez un sédentaire, le risque était multiplié par 80, mais le risque de base est quand même très bas. Attention, ne paniquons pas tout le monde. Alors que quand on fait du sport régulièrement, il est multiplié par 15. Mais le gros avantage, c'est que quand on fait du sport régulièrement, le risque de base est très bas. Donc vous avez baissé votre risque de base. Donc il y a beaucoup plus de bénéfices à faire régulièrement une activité physique, malgré l'augmentation transitoire qui est quand même très faible quand on est dans les risques très faibles.
Voilà, et votre astuce pour se motiver, voilà, juste pour s'y mettre, instaurer ce petit rituel tous les jours, c'est quoi? Ou tous les 2 jours?
Ça, c'est pas facile comme question, parce que, alors, je vais être un petit peu taquin. Ce qu'on sait, ce qu'on sait, c'est que l'envie de bouger, c'est génétique. L'envie de rester assis, on pourra y revenir, c'est génétique aussi. Donc, il faut se forcer.
Donc, faut
au début,
entre les
et
deux.
Après, on devient dépendant. Après, on a une bonne addiction. Il faut se pousser un peu. Lorsqu'on préfère regarder une série Téloche, on regarde la série Téloche sur son vélo d'appartement, mais il faut faire un effort à un moment.
Entendu, on a bien noté tous vos conseils. Merci beaucoup Stéphane Casqua. On rappelle que vous êtes médecin du sport à Paris.
Europe 1.
Votre émission santé continue dans un instant avec la chronique sexo de Damien Mascret. On va parler, Damien.
On va balayer les mythes de la sexualité masculine.
On se retrouve dans un instant.
Europe 1. Sans rendez-vous. Anne Le Gall.
Vous écoutez votre émission Santé, Bien-être jusqu'à 16h et dans cette dernière séquence de l'émission, nous parlons de relations amoureuses avec vous, Damien Mascret. On rappelle que vous êtes médecin sexologue et aujourd'hui, vous vouliez nous parler des mythes de la sexualité.
Oui, parce qu'il y en a beaucoup qui concernent les hommes, qui concernent les femmes et de toute façon, tout le monde doit les connaître parce que ça peut être source d'incompréhension. Et le premier qui est très important, c'est l'idée que au lit, c'est l'homme qui doit mener la danse.
Ah oui, ça, c'est un mythe, ça.
Qui décide. C'est un mythe, bien sûr, quand on a un petit peu développé son couple, c'est un vieux mythe. Mais c'est un mythe qui persiste, ou en tout cas, on peut avoir au cours du rapport sexuel, finalement, l'un des deux, alors on va dire pas forcément l'homme, même si 9 fois sur 10, c'est ce qui se passe. C'est l'homme qui décide, par exemple, les positions qu'on prend, des choses comme ça. On s'aperçoit quand on interroge les couples, eh bien, très souvent, c'est ce qui se passe. Il y a un meneur et un suiveur. Alors bon, évidemment, c'est comme pour le rock. En principe, il y a un meneur et un suiveur. Sauf que là, on va inviter à changer un petit peu le rôle de leader, le rôle de suiveur. Sinon, vous tombez un petit peu dans ce que mon amie Maya Mazorette appelle le syndrome de l'étoile de mer. C'est-à-dire qu'une princesse s'allonge, se met en position de l'étoile de mer.
Le prince arrive.
Et puis, se laisse emporter, ça peut avoir son charme. Bien sûr, on ne va pas l'empêcher, ça peut avoir son charme. Mais l'important, encore une fois, c'est de varier les plaisirs, varier qui dirige. Alors, on ne décide pas ça au départ, c'est toi qui décides tout, vous pouvez le faire, remarquez, mais en principe, ça se fait de façon naturelle au cours de l'acte sexuel.
Donc ça veut dire, ça suppose d'échanger tout simplement.
D'échanger les rôles, voilà, de dire aussi au cours de l'acte sexuel, c'est pas toujours facile, mais de dire, alors c'est pas forcément dire, ah non, pas ça, non, attention, ça peut être simplement d'inviter à faire autre chose, voilà, vous réorienter, vous réaiguiller votre partenaire sur quelque chose qui vous plaît davantage. Donc en tout cas, danser à deux et ne pas danser tout seul.
Le deuxième mythe détruire.
Le deuxième à détruire, c'est que les hommes auraient des besoins plus importants que les femmes sur le plan sexuel. Alors, c'est pas complètement un mythe, bien sûr, parce que quand on regarde ce qui se passe au niveau hormonal, on a tendance à dire que...
Physiologiquement, il ne se passe pas la même chose. Quand même.
Voilà, que le désir peut être un petit peu... Mais attention, on a quand même depuis construit un cerveau un peu plus évolué que le cerveau primaire. On a un cortex, ça n'excuse pas tout. Et il ne faut pas tomber dans l'idée qu'effectivement... Parce que vous me voyez venir avec, bien sûr, ce qui pointe le bout du nez, c'est-à-dire l'infidélité, parce que monsieur aurait des besoins plus importants que madame, et donc ça serait normal. Évidemment, il n'y a rien de normal dans ce qu'on décide de faire. On est libre, à chaque fois, de choisir ce qu'on veut faire, de passer à l'acte ou de ne pas passer à l'acte. Et c'est vrai aussi, donc, par rapport à cette idée que les besoins seraient plus importants. Ce qui compte, ce n'est pas forcément ce besoin qui existe, c'est ce qu'on en fait, et on s'aperçoit, notamment dans les addictions sexuelles, qui conduisent soit à la consommation intensive de pornographie, par exemple, ou même à des comportements sexuels agressifs, eh bien, on s'aperçoit que très souvent, ce sont des gens qui n'ont pas appris à réguler, à contrôler finalement leurs pulsions. Tout le monde a des pulsions. Les femmes aussi ont des pulsions. Il faut le rappeler aussi aux hommes qui croient parfois que leur partenaire n'a pas de pulsions. Eh bien, ça n'est pas vrai. Les femmes ont autant de besoins que les hommes. Simplement, savent parfois les contrôler un peu mieux que les messieurs.
Voilà, ça c'était le deuxième mythe. Le troisième ?
Le troisième, c'est que c'est l'érection qui compte, c'est l'érection qui fait l'homme, c'est l'érection qui fait la puissance sexuelle. Alors ça, il faut en terminer avec ça.
Il n'y a pas que ça.
Il n'y a pas que ça, voilà, exactement. C'est le mythe de la pénétration qui serait le Graal. Eh bien non, il faut là aussi redécouvrir le plaisir du toucher. Le plaisir tout court, voilà, on n'en est plus. Maintenant, le mantra, vous savez, le mantra, ça n'est plus qu'il faut avoir absolument un orgasme, voire simultanément. Non, ça, c'était dans les années 70. Aujourd'hui, le mantra, en tout cas en sexologie, c'est de dire ce qui compte, c'est l'intimité, le plaisir, également l'érotisme, bien sûr, et la satisfaction. Mais satisfaction, ça veut dire satisfaction sexuelle peut-être, quoi qu'on fasse, qu'il y ait d'ailleurs ou pas d'orgasme, mais ça veut dire aussi qu'il faut avoir une satisfaction émotionnelle, du moment justement qu'on aura passé ensemble, et puis une satisfaction du ou de la partenaire, parce que ça n'est pas à sens unique. On n'est pas dans l'un qui donne et l'autre qui reçoit. On est dans un partage. Et si vous êtes simplement, systématiquement, d'ailleurs que ce soit receveur ou donneur, receveuse ou donneuse, eh bien on s'aperçoit qu'au bout d'un moment, le désir, l'excitation se désamorce, qu'on a l'impression que d'un côté, On a un distributeur de plaisir ou un esclave finalement prêt à tout, mais on n'a pas l'impression d'avoir en face de soi une personne, une individualité qui a des désirs, des envies. Donc on a quelque chose qui désamorce cette fois-ci la relation sexuelle et le plaisir, l'excitation de la surprise et de la découverte. Donc il faut là aussi avoir une fluidité des rôles plus importante.
Voilà, donc on revient à l'idée que c'est une danse qui se danse à deux.
Exactement, ça se danse à deux.
Merci beaucoup Damien Mascret. Les meilleurs conseils pour votre bien-être et votre santé, on les partage tous les jours de 15h à 16h dans Sans Rendez-vous sur Europe 1. Merci à Maryse Jacquet et Benjamin Lévesque qui m'ont aidé à préparer cette émission. On se retrouve demain à 15h. En attendant, je vous laisse en compagnie de Philippe Googler qui vous emmène en voyage.